47 que des Bédouins découvrent à Qumran en Cisjordanie une partie de ce qu'on appelle les manuscrits de la mer morte. Alors quelle est l'histoire de cette découverte et que contiennent ces manuscrits? Pour répondre à ces questions, Joanne Ducey, notre partenaire de la première en Suisse romande, reçoit David Hamidovic, historien de l'Antiquité, spécialiste du judaïsme ancien et professeur à l'Université de Lausanne.
Au printemps 1947, un bédouin de Jordanie, recherchant une brebis égarée le long des falaises arides du Wadi Qumran, découvrit, non loin de la mer morte, une grotte où il mit la main sur d'anciens rouleaux de cuir couverts de caractères hébraïques. Ces manuscrits étaient d'une grande ancienneté et leur importance ne tarda guère à éclater au grand jour.
C'est à Qumran que tout bascule en 1947 avec une découverte majeure. On raconte qu'un bédouin serait parti à la recherche d'une chèvre dans une grotte et qu'il serait tombé sur un trésor. Quelle est l'histoire de la découverte? C'est celle-ci?
Pas exactement. Donc, en fait, il y a une petite histoire qui a été bâtie pour une raison simple qui est liée au contexte de la découverte.
Arabes et juifs se disputent la terre promise. Et le mandat de l'Angleterre sur la Palestine se teinte de sang.
On est en 1947, vous le savez, c'est un contexte qui est très troublé puisque c'est la fin de ce qu'on appelle le mandat britannique sur la Palestine. Et il y a à ce moment-là la volonté de créer ce qu'on appelle un foyer national juif avec un État. Et il y a des attentats pour hâter le départ des Britanniques. Et puis, évidemment, les Palestiniens qui habitent sur place et puis les nations arabes alentour ne sont pas d'accord. Donc, tout est troublé. Il y a des attentats des deux côtés. Donc, il y a des barbelés. On peut difficilement circuler. Et il se trouve que la découverte des manuscrits est faite non pas par des archéologues, mais par des Bédouins qui ont l'habitude de passer toutes ces frontières modernes, encore aujourd'hui d'ailleurs, pour faire paître leurs troupeaux. Et il se trouve que probablement les Bédouins, des Bédouins de la tribu Tahamiré, qui sont encore dans la région avec leurs troupeaux, eh bien, ont eu la chance de découvrir ce qu'eux appellent un trésor. Plus précisément, on sait que l'histoire probablement a lieu à la fin de l'année 1946, qu'ils ont effectivement prospecté dans les différentes grottes. Ils ont témoigné un petit peu plus tardivement. On sait que, un petit peu dans la mentalité arabe de ces populations, prospecter dans les grottes, ils veulent trouver de l'or. Et donc, c'est un petit peu l'équivalent chez nous de la loterie. C'est-à-dire, c'est l'idée de trouver quelque chose et de devenir subitement riche. Et il se trouve qu'ils ont trouvé des jarres. Et pour eux, les jarres étaient vraiment quelque chose de significatif parce que c'était des nouveaux supports pour contenir plein de choses. Et donc, ils ont d'abord sorti les jarres, ils ont utilisé les jarres. Et puis il y avait à l'intérieur des bouts de cuir, mais comme ils sont analphabètes, ils ne pouvaient pas lire ce que c'était. Mais on sait qu'ils ont participé quelques années auparavant à une autre expédition archéologique avec un préhistorien qui s'appelle René Neuville, qui les avait déjà amenés prospecter dans les grottes, et ils savent un petit peu que dans les grottes, il y a peut-être des choses intéressantes, je vais dire d'un point de vue historique, qu'ils pourraient revendre. Et donc les bouts de cuir, ils vont tenter... Ils ne savent pas ce que c'est. Ils vont tenter de les revendre auprès, on va dire, de gens qu'ils connaissent, notamment à Bethléem, parce qu'ils ont l'habitude de faire un peu du troc, d'échanger des marchandises qu'ils ont, quelquefois qu'ils ont produits, contre justement soit de la nourriture, soit d'autres objets, des chaussures, des vêtements, etc. Et donc, ils leur proposent ces manuscrits. On sait qu'un va refuser de les prendre parce qu'il pense que c'est le recel d'un vol dans une synagogue. Évidemment, ce sont des rouleaux, on le sait aujourd'hui, qui sont écrits en hébreu, notamment. Et donc, ils pensent que peut-être, les Bédouins ont volé dans une synagogue. Et puis, il y a un autre marchand qui va rester dans la postérité, qui s'appelle Kando, c'est son surnom, à Bethléem, qui, lui, va accepter de les prendre en dépôt-vente. Donc, il va les mettre dans sa boutique, et puis, évidemment, personne... ne veut les acheter. Et donc les Bédouins les reprennent un moment, les mettent dans des sacs plastiques, les ramènent dans leur camp. Ça reste plusieurs mois comme ça. Des Bédouins plus âgés les regardent les manuscrits, etc. Et puis parmi ces Bédouins, ils sont en contact avec c'est l'Orient ancien, avec un chrétien syriaque qui s'appelle Georges Isaïa, qui lui dit: mais moi je connais le chef d'un monastère à Jérusalem, le monastère Saint-Marc à Jérusalem. Et peut-être que lui ça l'intéresserait. Et donc il prend certains de ces rouleaux, il montre à ce supérieur, qu'on appelle un archimandrite, au monastère Saint-Marc de Jérusalem, qui dit « Mais moi, je veux bien vous acheter ça pour ma collection, pour ma bibliothèque. » Donc, il les achète à un prix dérisoire, hein, c'est quelques dollars. Et puis, il les a, mais il ne sait pas très bien quoi en faire, parce qu'on ne sait pas, à cette époque-là, à quelle période ça appartient, si c'est ancien, si c'est récent. Donc, il décide d'aller dans cette Jérusalem très tourmentée à cette époque-là, un peu prospectée dans les institutions académiques, universitaires qui existent. Il y en a deux. Il y a l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, donc qui est au départ un couvent dominicain, mais qui a créé une école sur le modèle des écoles pratiques qu'il y a à Paris. C'est-à-dire, c'est l'idée de découvrir la Bible sur le terrain. Donc, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a cette institution avec des dominicains qui sont spécialisés. Aucun de ces dominicains n'est capable véritablement de dire quelle est l'antiquité et la rareté finalement de cette découverte. Et donc il se tourne vers une autre institution, qui est l'institution nouvelle qui est en train d'être créée, qui est l'Université hébraïque de Jérusalem. Où là, il y a un documentaliste qui est passionné aussi d'archéologie, qui s'appelle Eleazar Soukenik, qui lui, tout de suite, voit véritablement la valeur des rouleaux, c'est-à-dire il compare les lettres avec des inscriptions anciennes. Et il dit, mais attention, ce sont des manuscrits très anciens qu'on ne connaissait pas. Et donc il est vraiment le premier, Eleazar Soukenik, à dire que cette découverte est une découverte très importante. Donc ensuite, il va traduire, il va essayer d'acquérir d'abord aussi des rouleaux. Il y a toute une histoire rocambolesque où il va, le jour de la proclamation de l'État d'Israël à l'ONU, il est chez Kando à Bethléem, alors qu'en tant que juif, il est censé pas être dans cette zone-là. Donc c'est tout un voyage rocambolesque. Mais bon, il réussit à acquérir les rouleaux, à les acheter. Et donc il a avec lui quelques rouleaux qu'il tente de traduire. Et il est le premier à dire, mais attention, ce sont des manuscrits très anciens. Notamment, il y a un manuscrit de la Bible hébraïque ou Ancien Testament qui est le plus ancien témoin textuel que nous avons. C'est le livre d'Isaïe, le grand rouleau d'Isaïe, comme on l'appelle aujourd'hui, qui est exposé au musée d'Israël. Et donc, il est le premier à dire cela. Et puis, il y a des textes un peu bizarres. C'est-à-dire, il y a un commentaire d'un livre d'un prophète qui s'appelle le prophète Habacuc. Donc, un commentaire inédit. Bon. Et puis, il y a un autre texte qu'on appelle à cette époque-là le manuel de discipline. Une sorte de groupe dont on a l'impression que c'est un groupe presque proto-monastique avant l'heure, qui réglemente la vie d'un groupe, des gens très rigoristes. Et lui reconnaît pour la première fois le nom de ce groupe. Il dit « ce sont des juifs esséniens ». Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a des témoignages anciens de ce groupe qui étaient présentés comme un idéal à la fois de pureté et de groupe religieux. Et cet idéal avait été décrit avec force de détail par principalement trois historiens ou encyclopédistes anciens dans l'Antiquité. Il y avait Flavius Joseph au 1er siècle de notre ère, Philon d'Alexandrie qui est un philosophe, donc à Alexandrie en Égypte au 1er siècle de notre ère. Et puis à la même époque, vous avez aussi Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle qui parle des Esséniens.
Sur les rivages de la mer Morte, dans leur royaume de roches, les manuscrits attendaient tranquillement depuis deux millénaires. En 1947, un jeune bédouin à la recherche de ses brebis s'engouffre dans une sombre cavité. Complètement par hasard, il découvre des jarres entreposées soigneusement à l'abri du temps.
Elles étaient hautes, comme ça, avec quatre anses. Parmi celles que j'ai fouillées, une seule contenait des manuscrits.
Lors de la découverte, en 1947, de ces manuscrits dans la grotte, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de manuscrits.
Alors on le saura après, parce que évidemment ce sont les Bédouins qui apportent les manuscrits sur le marché des Antiquités à Jérusalem et ils les apportent au compte-gouttes. Et donc au départ on ne sait pas très bien d'où ça vient. D'ailleurs la découverte de la grotte se passe plusieurs mois plus tard où il faut un petit peu forcer les Bédouins à révéler où ça se situe. Donc il y a toute une enquête qui est menée notamment par un observateur de l'ONU belge qui s'appelle Lippens, qui va permettre de découvrir l'entrée de cette première grotte. Et on découvre que les Bédouins n'ont sorti que finalement 6 ou 7 rouleaux, quasiment complets. Alors un rouleau, hein, c'est quelque chose qui fait 30 cm de haut. Alors quand on le déroule, ça fait plusieurs mètres de long. Ce sont des rouleaux qui sont très bien conservés, sauf un, qu'on n'a pas pu dérouler à cette époque-là, qui est à l'état un peu d'un vieux cidre. On découvre plusieurs centaines de fracs de le dérouler. Et certains appartiennent aux rouleaux qu'on avait précédemment sortis, et puis d'autres appartiennent à des rouleaux qui ont complètement disparu.
Le retentissement de la découverte amena d'autres chercheurs clandestins attirés par des espoirs de gains, et les recherches s'organisèrent sur le site de Qumran, au nord-ouest de la mer Morte, en pleine zone désertique à moins de 20 km de Jérusalem. Et c'est ainsi qu'en février 1952, des Bédouins découvrirent une seconde grotte à manuscrits à quelques 100 mètres de la première. Et le mois suivant, des archéologues explorant la falaise sur une longueur de 8 km eurent la joie de repérer une troisième grotte contenant d'anciens textes.
En fait, c'est plusieurs grottes qui vont être explorées.
Alors entre 1947 et 1956, il y a en fait 11 grottes qui vont révéler des manuscrits. Et c'est là où on voit que la connaissance du terrain par rapport aux Bédouins, elle est très importante, parce que les archéologues ne trouvent rien, quasiment rien. Et ce sont les Bédouins qui ressortent à chaque fois, les années passant, de nouveaux manuscrits qu'on retrouve sur le marché des antiquités. Et notamment, l'exemple le plus fameux, c'est en 1952. Où en 1952, les archéologues vont fouiller un site dont on va parler, qui est le site archéologique de Qumran. Et sur ce site, en fait, ils ne trouvent sur le site aucun rouleau, aucun fragment, rien du tout. Juste les mêmes poteries qui montrent qu'il y a un lien en fait entre les grottes et le site. Et à 30 mètres, vraiment à 30 mètres du site, sur un éperon dans le plateau marneux, eh bien il y avait la grotte qu'on appelle la grotte numéro 4, parce qu'il y en a deux autres qui ont été découvertes entre temps. Et là, ce sont les Bédouins qui connaissent l'existence de cette grotte et qui sortent les manuscrits quand les archéologues partent. Et donc il y a à peu près quand même, parce qu'on n'a pas dit le nombre, hein, le total des manuscrits de la mer Morte, c'est à peu près 1000 manuscrits. Et dans cette grotte numéro 4, c'est quand même les deux tiers. Il y a plus de 650 manuscrits qui sont exhumés. Là, l'état souvent de fragments. Et donc, dans cette grotte numéro 4, le père Roland Deveau, donc, qui est l'archéologue du site, évidemment, le prend un peu mal parce que lui, il a fouillé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et il n'a rien trouvé. Et donc là, il contraint un petit peu les Bédouins avec, si je puis dire, la cavalerie jordanienne, puisque à cette époque-là, on circule encore à cheval. Et donc, qui voit des Bédouins sortir des manuscrits de la grotte numéro 4. Et donc là, c'est une course-poursuite, si vous voulez. Et donc, voilà, on sait où est la grotte, mais les Bédouins ont déjà sorti la quasi-totalité. Et donc la quasi-totalité est écoulée sur le marché par les mêmes réseaux, Kando, etc. C'est presque un film, c'est presque une série en fait. Et donc en 1952, on est déjà à la grotte numéro 4 avec des fragments qui sont très petits, dont on reparlera, qui vont causer d'autres problèmes ensuite pour le déchiffrement. Et puis jusqu'en 1956, en fait, on découvre dans cette prospection du désert de Judée 11 grottes qui contiennent des manuscrits. Il faut imaginer que pour trouver 11 grottes, ils ont prospecté plus de 1000 grottes, en fait. Et encore aujourd'hui, on continue de prospecter.
1er juillet 1954, annonce publiée dans le Wall Street Journal.
Des manuscrits bibliques datant d'au moins 200 ans avant Jésus-Christ sont vendus. Ce serait le cadeau idéal pour les institutions culturelles ou religieuses, par un particulier ou un groupe.
Comment les manuscrits ont-ils été réunis? Vu que les Bédouins les sortent au compte-goutte, les revendent sur un marché parallèle, comment on fait finalement pour réunir ce trésor archéologique?
Alors au départ, il faut de l'argent, parce qu'en fait, les Bédouins ne veulent pas les laisser gratuitement. D'autant plus que plus on avance dans le temps, à partir de 1947, plus on comprend l'intérêt des manuscrits, l'intérêt pour l'histoire, pour la recherche, pour la théologie, pour la religion. Et donc, plus on avance dans le temps, plus les manuscrits voient leur prix, c'est plus que se multiplier. Hein. Ce sont des sommes astronomiques. À la fin des années 1950, l'État jordanien, qui rachète beaucoup de manuscrits, n'a plus les moyens financiers. Et donc, à ce moment-là, les manuscrits restent sur le marché des antiquités. Donc, on sait, d'une part, qu'il y a des institutions étrangères qui achètent. C'est pour ça qu'à travers le monde, il y a aujourd'hui beaucoup de manuscrits. Je dirais une dissémination qui est très importante de quelques manuscrits à travers le monde, dans des institutions, puis aussi des particuliers qui, comme vous et moi, vont dans les boutiques spécialisées et puis achètent comme ça. Voilà, quelquefois, on dit même qu'on leur vend au centimètre carré. Et donc, on a des manuscrits dont on voit bien que ça a été découpé au ciseau. Ce sont des carrés de centimètres carrés, donc on voit qu'il y a probablement des prix qui sont fixés. Et aujourd'hui, on voit réapparaître depuis quelques années certains de ces manuscrits lors de successions. Parce que le prix de ces manuscrits, voilà, dans les ventes aux enchères ou autres, se chiffre souvent en millions de dollars aujourd'hui.
Mais l'idée, c'est de réunir tout le matériel.
Alors, dans cette perspective-là, l'Université hébraïque de Jérusalem et derrière l'État d'Israël comprend tout de suite l'intérêt et que c'est son patrimoine en tant que tel. Le nouvel État d'Israël va débloquer des fonds pour racheter. Il ne va pas tout racheter, mais il va en racheter la plupart. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les antiquités israéliennes vont investir pour racheter un petit peu tout ce qu'ils peuvent. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que la quasi-totalité des manuscrits, sauf ceux qui sont encore dans les institutions étrangères et dans quelques collections particulières, sont stockés et visibles au musée d'Israël, dans ce qu'on appelle le sanctuaire du livre.
Le plus formidable affrontement de tous les temps, le combat des fils de la lumière et des fils des ténèbres, le bien contre le mal. C'est ce que représente cette nef de céramique blanche et ce grand mur de marbre noir. Fils de la lumière et fils des ténèbres, ce n'est pas le dernier film de Spielberg, mais l'histoire vieille de 2000 ans, écrite sur le cuir des manuscrits de la Mer Morte. Des manuscrits bibliques si précieux que l'État d'Israël a construit à Jérusalem ce monument extraordinaire à leur gloire. Un sanctuaire souterrain symbolisant la grotte dans laquelle ils ont été trouvés à Qumran en 1947.
Ces manuscrits ne sont pas, pratiquement pas altérés. Est-ce qu'on a une explication à cette bonne conservation ?
Alors c'est une excellente question, parce que aujourd'hui, si vous et moi on écrit sur du papier à l'encre, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, on a tous des petites archives personnelles, l'encre passe, etc., le support se détériore. Alors d'abord, c'est pas juste de dire qu'ils sont très bien conservés. On a sur les 1000 manuscrits, on va dire à peu près une dizaine, une quinzaine de rouleaux qui sont presque intacts. Notamment dans la grotte numéro 1, tout au départ, il y en avait 7 qui sont très bien conservés, 6 ou 7 qui sont très bien conservés. Ensuite, dans la dernière grotte, la grotte numéro... Notamment dans la grotte numéro 1, tout au départ, il y en avait 7 qui sont très bien conservés, 6 ou 7 qui sont très bien conservés. Ensuite, dans la dernière grotte, la grotte numéro 11 aussi. Mais tout le reste, c'est vraiment des fragments, c'est quelquefois même des confettis. Mais on sait que ces rouleaux ont été abîmés à cause du stockage, notamment dans les grottes, parce que dans le stockage, il y avait des conditions hygrométriques qui, selon l'endroit où c'était stocké, vous étiez exposé ou non, les rouleaux étaient exposés ou non au soleil, donc avec des champignons, une vie bactérienne, si vous voulez, qui se développe, et puis aussi probablement des petits animaux, des insectes qui rongent les manuscrits. Très simplement, on sait que, on va dire, les trois quarts, plus que des trois quarts, sont sur du cuir. C'est un cuir qui a été préparé, donc ça devient du parchemin, donc la peau a été préparée pour recevoir une écriture, et l'écriture, c'est une écriture végétale, évidemment. C'est du gal de chêne pour l'écriture noire. Et il y a une autre écriture qui est rouge, dont on sait que c'est du cinabre, donc qui est aussi source végétale. Mais très probablement qu'il y a déjà à cette époque-là une forme, si je puis dire, de science de l'encre. On sait qu'il y a des encres qui se conservent bien, parce qu'évidemment, l'acte de copier, c'est un acte qui est relativement rare dans l'Antiquité. Il y a très peu de gens qui savent lire et écrire, il y a très peu de gens qui sont capables de copier. Donc il est probable qu'on ait un peu une science du scribe qui est de savoir comment on prépare la recette de l'encre pour que ça soit une recette durable.
Cette découverte, c'est une découverte majeure. Tout le monde va vouloir étudier ou travailler sur ces manuscrits de Qumran.
Oui, puis après, évidemment, il y a un enjeu qui est multiple. D'abord, le premier enjeu, parce qu'il faut bien le resituer, c'est que ce sont les plus anciens manuscrits de la Bible hébraïque ou Ancien Testament, c'est la même chose, qui sont connus. Les manuscrits les plus anciens qu'on avait précédemment dataient du 9e, 10e siècle de l'ère chrétienne, donc vraiment au milieu du Moyen-Âge. Et là, on est sur des manuscrits. Les plus anciens manuscrits sont d'ailleurs des manuscrits entre guillemets bibliques. Les plus anciens datent du milieu du 3e siècle avant notre ère. Donc vous voyez, il y a un bond en arrière de presque 10 siècles, voire plus que 10 siècles, 13 siècles, qui fait que en fait, on a un témoin textuel qui n'est plus dans les hypothèses, les théories, etc., que les chercheurs, les exégètes, comme on dit, ont pu formuler depuis le 18e siècle. Mais là, on a vraiment des témoins textuels, physiques, qu'on peut lire et comparer. Donc ça, c'est le premier apport. Le deuxième apport, c'est qu'on a... si je puis dire, une connaissance de la manière dont le texte biblique s'élabore, qui est beaucoup plus complexe qu'on ne l'envisageait. On perçoit aujourd'hui très clairement qu'on est le fruit de la modernité dans le rapport qu'on a au texte biblique. Ça veut dire que depuis la Renaissance, et encore plus depuis la fin du 19e siècle avec l'exégèse allemande, protestante, on s'attache presque aux détails du texte, si je puis dire à la virgule, il n'y a pas de virgule en hébreu, mais on va commenter dans les facultés de théologie, entre autres, la virgule du texte. On s'aperçoit que dans l'Antiquité, c'est pas du tout ce qui intéresse. Par exemple, on a découvert qu'il y avait plusieurs récits du sacrifice d'Isaac, conservés dans la même communauté et copiés à la même époque, mais ce sont des manuscrits qui ont un texte différent. Alors évidemment, quand on raisonne un petit peu, pourquoi est-ce qu'on a des variantes, en fait, sur le même texte, dans la même communauté, à la même époque ? Parce qu'en fait, de savoir que Abraham vient avec son fils Isaac, avec deux valets, ou avec aucun valet, qu'il vient avec un morceau de bois sous le coude ou pas, en fait, ça ne change absolument pas le message. Et donc, dans l'Antiquité, ça ne pose aucun problème que les détails soient pas tout à fait cohérents les uns avec les autres, parce que le message reste le même. l'épisode, si vous voulez, la fin de l'épisode, où Abraham, sa main est arrêtée, tout le monde le sait, avant de sacrifier son fils Isaac, c'est toujours la même fin. Donc en fait, le message reste le même, c'est-à-dire la fidélité d'Abraham reste la même, mais le détail importe peu. Et donc ça renvoie au concept qu'on a de la révélation, parce que ce que je suis en train de dire là est valable aussi lorsqu'il y a dans la Bible « Dieu a dit » de point ouvrez les guillemets. Alors évidemment, aujourd'hui, si vous modifiez le texte de Dieu, évidemment, dans beaucoup de religions, les gens vont sauter en l'air. Alors que dans l'Antiquité, ça ne pose aucun problème de finalement harmoniser un peu ou retransformer un peu le message divin. Le message ne change pas, mais souvent on modifie le texte pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ou on harmonise, parce que dans la Bible, quelquefois, il y a deux passages qui parlent de la même chose, ou au contraire, on développe une petite idée supplémentaire, ou au contraire, on en retranche une autre. Et donc ça, visiblement, ça pose aucun problème. Donc le concept de révélation est un concept très différent dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Alors ça ouvre des perspectives, si je puis dire, historiques et théologiques, énormes.
Ça fait bouger les lignes et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça.
Alors je dirais là, comme ce sont des témoins physiques, textuels, c'est-à-dire c'est incontestable. Alors il y a des gens qui veulent ne pas prendre en compte les textes de Qumran, parce qu'évidemment ça remet en cause leur formation, la manière dont ils travaillent depuis très longtemps. Et puis il y en a d'autres, c'est la génération à laquelle j'appartiens, où nous, on prend à bras-le-corps en disant mais il faut vraiment expliquer comment le texte biblique s'écrit, comment il devient sacré, à quel moment on lui donne une partie sacrée, parce qu'il y a d'autres textes qu'on a aussi dans les manuscrits de la mer morte, qui sont des textes qui ont autant d'autorité que ces textes-là, mais qui vont être éjectés un petit peu plus tard. Donc on cherche à comprendre ce phénomène qu'on appelle la canonisation, et donc comment on décide qu'un texte est sacré et comment il ne l'est pas. Voilà, il y a un phénomène où on comprend aujourd'hui beaucoup mieux ce qui se passe grâce aux manuscrits de la mer morte. Donc ça, c'est vraiment un apport majeur. Et puis l'autre apport majeur, si je puis dire, c'est la découverte un petit peu d'un milieu culturel, puisque les manuscrits de la mer morte, c'est